Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Rideau Rouge. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Rideau Rouge. Je voudrais évoquer pour vous aujourd'hui une pièce qui a eu un succès considérable, une pièce de Jean Giraudoux, qui a été créée en 1937 au Théâtre de l'Athénée, qui était dirigée par Louis Jouvet. Cette pièce est Électre. Alors, pour bien situer l'action, rappelons brièvement qui était Électre. Électre, elle fait partie de la famille des Atrides. Vous savez, cette famille où les gens passaient la plupart de leur temps à s'étriper avec allégresse. Elle est la fille d'Agamemnon, roi de Mycène, et de Clytemnestre. Elle a un frère, Oreste, une sœur, Iphigénie, qui a été sacrifiée par Agamemnon pour permettre aux Grecs de partir au pied des remparts de la ville de Troie. Elle a aussi une petite sœur, Chrysothémis. Et lorsque l'action commence, nous sommes à Mycène et on voit un inconnu qui arrive dans le palais. On ne va pas tarder à savoir que cet inconnu, c'est Oreste, qui a quitté la maison paternelle, le palais paternel. Et l'histoire d'Électre a inspiré beaucoup d'auteurs dramatiques. Les grands classiques, Eschyle, Sophocle, Euripide. Et même après Giraudoux, en 1947, une pièce de Jean-Paul Sartre qui s'appelle « Les mouches », qui n'est pas ce que l'écrivain a fait de mieux. Il y a aussi, si cela vous intéresse, et je me permets de vous le recommander, en 1962, il y a un film extraordinaire de Kakoyanis. Ça s'appelle « Électre », sur une musique de Mikis Theodorakis, avec une interprète exceptionnelle, Irène Papas. Mais on peut signaler également une pièce de Jean Anouilh en 1922. Tu étais si gentil quand tu étais petit. Mais revenons-en à l'Athénée en 1937. Dans la distribution, il y a Louis Jouvet, bien sûr, René Devillé, Gabriel Dorzia, Madeleine Auzeray, Pierre Renoir, Alfred Adam. Et autour des personnages principaux, il y a trois gamines, les petites Euménides. Si vous connaissez l'histoire, on sait qu'elles vont poursuivre Oreste après qu'il aura tué sa mère et son beau-père. Et les petites Euménides, d'emblée, nous disent ce qui va se passer. Première petite fille, la reine Clytemnestre a un mauvais teint, elle se met du rouge. Deuxième petite fille, elle a mauvais teint parce qu'elle a mauvais sommeil. Troisième petite fille, elle a mauvais sommeil parce qu'elle a peur. Première petite fille, de quoi a peur la reine Clytemnestre? Deuxième petite fille, de tout. Première petite fille, qu'est-ce que tout? Deuxième petite fille, le silence, les silences. Troisième petite fille, le bruit, les bruits. Première petite fille, l'idée qu'il va être minuit, que l'araignée sur son fil est en train de passer de la partie du jour où elle porte bonheur à celle où elle porte malheur. Deuxième petite fille, tout ce qui est rouge, parce que c'est du sang. La reine Clytemnestre a mauvais teint. Elle se met du sang. Et on va pas tarder à voir apparaître dans la pièce un couple qui est comiquement la réplique du couple Égiste-Clytemnestre, le couple du président et de son épouse Agathe, qui le trompe allègrement avec tout ce qui passe à portée de sa jupe. Et on apprend que Clytemnestre, qui en a assez de voir Électre muette devant elle comme un reproche vivant, et pour s'en débarrasser, elle a trouvé une solution. Elle va la marier. La marier à qui ? Oh, tous les princes auraient été ravis d'épouser Électre, la fille d'Agamemnon, mais non. Électre, on la destine à un jardinier. Et le jardinier va jouer un rôle très important. Alors, l'étranger, rappelons que c'est Orès qui ne s'est pas déclaré, apprend qu'Électre va épouser le jardinier. Tu épouses Électre, toi, le jardinier ? Le jardinier, elle sera ma femme dans une heure. C'est l'ordre d'Égiste. L'étranger, suis-je fou ? Si Agamemnon vivait, le mariage d'Électre serait la cérémonie de la Grèce. Et Égiste la donne à un jardinier. Vous n'allez pas me dire qu'Électre est laide ou bossu, le jardinier. Électre est la plus belle fille d'Argos. Elle est donc arriérée, sans esprit, l'intelligence même. Que peut-elle faire alors ? Que peut-elle dire pour qu'on la traite ainsi ? Elle ne fait rien. Elle ne dit rien. Mais elle est là. C'est son droit, c'est le pays de son père, ce n'est pas sa faute s'il est mort. Jamais je n'aurais eu l'audace de songer à épouser Électre, mais puisqu'Égiste l'ordonne, je ne vois pas ce que j'ai à craindre. Alors, malgré les protestations du président, on se doute que le mariage va bien avoir lieu, seulement. Oreste ne peut pas accepter que sa sœur épouse un jardinier. Il va se faire reconnaître d'Électre comme son frère, et Électre renvoie le jardinier à ses plantations. Et on voit apparaître un personnage mystérieux, le mendiant. Le mendiant, il n'est pas directement dans l'action. Il ne fait partie ni de la famille royale, ni de la famille du jardinier, mais il va prendre la place du peuple, de la voix populaire. Il a tout compris, enfin, presque tout. Et il va jouer ce rôle de révélateur. Voici l'arrivée d'Égiste qui explique qu'il a voulu que le mariage d'Électre, parce que c'est le seul moyen d'avoir la paix. et arriveront alors Électre, Clytemnestre, Oreste dont seul Électre encore sait qui il est. Et on va arriver à un passage primordial dans la pièce. Un passage qui ne fait pas partie de la pièce. L'entracte. L'entracte, c'est entre deux actes et ce que Giraudoux appelait le lamento du jardinier. C'est la dernière apparition du jardinier sur la scène. Moi, je ne suis plus dans le jeu, c'est pour cela que je suis libre de venir vous dire que la pièce, ce que la pièce ne pourra vous dire. Dans de pareilles histoires, ils ne vont pas s'interrompre de se tuer, de se mordre, pour venir vous raconter que la vie n'a qu'un but, aimer. Ce serait même disgracieux de voir le parricide s'arrêter le poignard levé et vous faire l'éloge de l'amour. Cela paraît très artificiel, beaucoup ne le croiraient pas, mais moi, qui suis là, dans cet abandon, cette désolation, je ne vois vraiment pas ce que j'ai d'autre à faire. Et je parle impartialement, jamais je ne me résoudrai à épouser une autre qu'Électre, et jamais je n'aurai Électre. Je suis créé pour vivre jour et nuit avec une femme, et toujours je vivrai seul. Pour me donner sans relâche, en toute saison et occasion, et toujours je m'en garderai. C'est ma nuit de noces que je passe ici tout seul, et jamais je n'en aurai d'autre, et le sirop d'orange que j'avais préparé pour Électre, c'est moi qui ai dû le boire. Il n'en reste plus une goutte, c'était une nuit de noces longue. Alors, qui douterait de ma parole ? L'inconvénient que j'ai toujours un peu le contraire de ce que je veux dire, mais ce serait vraiment à désespérer aujourd'hui avec un cœur aussi serré et cette amertume dans la bouche. C'est amer au fond l'orange. Si je parvenais à oublier une minute que j'ai à vous parler de la joie, joie et amour, oui. Je viens vous dire que c'est préférable à aigreur et haine comme devise aggravée sur un port, sur un foulard, c'est tellement mieux. Ou en bégonanien, dans un massif, évidemment. La vie a raté, mais c'est très très bien la vie. Évidemment, rien ne va jamais, rien ne s'arrange jamais, mais parfois, avouez que cela va admirablement, que cela s'arrange admirablement. Pas pour moi, ou plutôt pour moi. Si j'en juge d'après le désir d'aimer, le pouvoir d'aimer tout et tous que me donne le plus grand malheur de la vie, qu'est-ce que ça doit être pour ceux qui ont des malheurs moindres? Quel malheur, quel amour doivent éprouver ceux qui épousent des femmes qu'ils n'aiment pas? Quelle joie ceux qu'abandonnent après qu'ils ont eu une heure dans leur maison la femme qu'ils adorent? Quelle admiration ceux dont les enfants sont trop laids. Évidemment, il n'était pas très gai cette nuit, mon jardin. Comme petite fête, on peut s'en souvenir, j'avais beau faire comme parfois, comme si Électre était près de moi, lui parler, lui dire, rentrez, Électre, avez-vous froid, Électre? Rien ne s'y trompait, pas même le chien. Je ne parle pas de moi-même. Il nous a promis une mariée, pensez le chien, il nous amène un mot. Mon maître s'est marié à un mot. Il a mis son vêtement blanc, celui sur lequel mes pattes marquent, qui m'empêche de caresser, pour se marier à un mot. Il donne du sirop d'orange à un mot. Il me reproche d'envoyer à des ombres, à de vraies ombres qui n'existent pas. Et lui, le voilà qui essaie d'embrasser un mot. Et je ne me suis pas étendu me coucher avec un mot, c'était au-dessus de mes forces. On peut parler avec un mot, c'est tout. Mais assis comme moi dans ce jardin, où tout divague un peu la nuit, où la lune s'occupe au cadran solaire, où la chouette aveuglée, au lieu de boire au ruisseau, boit à l'allée de ciment, vous auriez compris ce que j'ai compris, à savoir la vérité. Vous auriez compris le jour où vos parents mouraient, que vos parents naissaient, le jour où vous étiez ruiné, que vous étiez riche, où votre enfant était ingrat, qu'il était la reconnaissance même, où vous étiez abandonné, que le monde entier se précipitait sur vous dans les lois et la tendresse. C'est justement ce qui m'arrivait dans ce faubourg, vide et muet. C'est probablement le plus beau passage de la pièce. Je vous propose un intermède musical. Nous sommes toujours à l'acte 2 de l'Électre de Giraudoux. Et on arrive à cette scène très ample où Clytemnestre, poussée à bout par Électre, finit par reconnaître qu'elle a tué Agamemnon avec la complicité de son amant, Égiste. Et voici la déclaration d'Électre à propos d'Agamemnon. Oui, elle s'adresse à Électre. Je le haïssais. Oui, tu vas en savoir enfin ce qu'il était, ce père admirable, oui. Après 20 ans, je vais m'offrir cette joie. Une femme est à tout le monde. Il y a tout juste au monde un homme auquel elle ne soit pas. Le seul homme auquel je n'étais pas, c'était le roi des rois. Le père des pères, c'était lui. Du jour où il est venu m'arracher à ma maison avec sa barbe bouclée, de cette main dont il revêt toujours le petit doigt, je l'ai haï. Il le relevait pour boire, il le relevait pour conduire, le cheval s'emballe-t-il, et quand il tenait son sceptre, et quand il me tenait moi-même, je ne sentais sur mon dos que la pression de 4 doigts. J'en étais folle. Et quand dans l'aube il livra à la mort ta sœur Iphigénie, horreur. Je voyais aux deux mains le petit doigt se détacher sur le soleil. Le roi des rois, qu'elle dirait ? Dérision ! Il était pompeux, indécis, niais. C'était le fat des pattes, le crédule des crédules. Le roi des rois n'a jamais été que ce petit doigt et cette barbe que rien ne rendait lisse. Inutile l'eau du bain sous laquelle je plongeais sa tête, inutile la nuit de faux amours où je l'attirais, l'emmêlais, inutile cet orage de Delphes sous lequel les cheveux des danseuses n'étaient plus que des crins, de l'eau, du lit, de l'avenue du temps. Elle ressortait en or avec ses cannelages. Et il me faisait signe d'approcher de cette main à petits doigts, et je venais en souriant. Pourquoi ? Il me disait de baiser cette bouche au milieu de cette toison, et j'accourais pour la baiser, je la baisais. Pourquoi ? Et quand au réveil, je le trompais avec le bois de mon lit, et que me disait de lui parler, que je savais, vaniteux, vide aussi, banal. Je lui disais qu'il était la modestie, l'étrangeté aussi, la splendeur. Pourquoi ? Et s'il insistait, on soit peu, bégayant, lamentable, je lui jurais qu'il était un dieu, roi des rois. La seule excuse de ce surnom est qu'il justifie la haine de la haine. Sais-tu ce que j'ai fait le jour de son départ, Électre, son navire encore en vue ? J'ai fait immoler le bélier le plus bouclé, le plus indéfrisable. Je me suis glissé vers minuit dans la salle du trône, toute seule pour prendre le sceptre à pleine main. Maintenant, tu sais tout. Tu voulais un hymne à la vérité ? Ha ! Voilà le plus beau. Électre, ô mon père, pardon. Clytemnestre, qu'on saisisse d'abord cette fille, qu'on l'enchaîne. Électre, me pardonneras-tu jamais de l'avoir entendue, ô mon père ? Est-ce qu'il ne faut pas que la mère existe ? Et les choses dès lors vont se précipiter. Le mendiant raconte à une femme qui est avec lui, la femme Narcès, quelle a été la vraie mort d'Agamemnon. Comment ils l'ont tué, femme Narcès ? Écoute, voici comme tout s'est passé, et jamais je n'invente. C'est la reine qui a eu l'idée de savonner les marches qui descendent à la piscine. Ils ont fait cela à eux deux, alors que toutes les ménagères pour le retour d'Agamemnon savonnaient leurs seuils. La reine et son amant savonnaient le seuil de sa mort. On peut imaginer quelle main propre ils avaient. Ils lui ont offert quand Agamemnon est entré. Et alors, comme il tendait les bras vers elle, il a glissé ton père. Électre, tu as raison. Il a glissé jusqu'au milieu des dalles. Et le fracas de sa chute à cause de la cuirasse et du casque était bien celui d'un roi qui tombe, car tout était de l'or, et c'est elle qui s'est précipitée pour le relever, croyait-il, mais qu'il a maintenu. Il ne comprenait pas. sa femme chérie qui le maintenait à terre et se demandait si c'était dans un élan d'amour. Mais alors, pourquoi cet Égis restait-il? Alors, cette chute pouvait vouloir dire qu'il mourrait dans un an, dans 5 ans, mais ce qu'il trouvait singulier, c'est que son épouse bien-aimée lui saisit au poignet, pesa de tout son poids pour le clouer au sol. Elle n'était pas plus belle, ainsi penchée, le sein à la tête, le cou qui prenait ses plis. Ce n'était pas comme le jeune égiste qui essayait de lui tirer son épée, qui devenait de plus en plus beau. Tous deux étaient muets. Lui leur parlait. Et ainsi va se poursuivre le récit jusqu'à ce qu'on apprenne que Oreste a tué Clytemnestre, a tué Égiste, et s'est enfui, poursuivi par les Héminides. Et c'est le mendiant qui va avoir le dernier mot. Et la femme Narcisse, à toute fin de la pièce, demande au mendiant: je ne saisis jamais bien vite. Je sens évidemment qu'il se passe quelque chose, je ne me rends mal compte. Comment cela s'appelle-t-il quand le jour se lève, comme aujourd'hui, que tout est gâché, que tout est saccagé, que l'air pourtant se respire, qu'on a tout perdu, que la ville brûle, que les innocents s'entretuent, mais les coupables agonisent dans un coin du jour qui se lève. Électre demande au mendiant, il le sait. Et c'est le mendiant qui donne la dernière réplique de la pièce dans cette ville saccagée. Cela a un très beau nom, femme Narcisse. Cela s'appelle l'aurore. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Thank you.